Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invitée est traductrice. John Irving, Jonathan Coe, Aldous Huxley, Virginia Woolf, George Orwell, Jack Kerouac, Philip Roth. Aucun ne semble avoir de secret pour elle. Elle connaît leurs mots, leurs tics grammaticaux, leur ton, leur tournure de phrase, d'où ils écrivent et pour qui, ce qu'ils voulaient dire et là où ils voulaient en venir. Évidemment, ils gardent encore quelques secrets, mais l'art de la traduction semble être là. Nous laisser penser à nous, lecteurs et lectrices, que l'auteur a bien dit ça, et pas autre chose, et pas autrement. Comme on fait un pacte avec l'auteur, on fait un pacte avec le traducteur. On le croit, on lui fait confiance, au point même, parfois et même souvent, de ne pas lire son nom. Rares sont ceux qui demandent « Tu l'as lu dans quelle traduction, toi, ce livre ?» Et loin d'être de l'indifférence, n'est-ce pas la preuve ultime de la confiance qu'on met dans les traducteurs et les traductrices ?
Bonjour José Camoun.
Bonjour à vous.
Bienvenue dans les Midis de Culture.
José Camoun, votre dictionnaire amoureux de la traduction vient de paraître aux éditions Plon. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que souvent on oublie le nom du traducteur ou de la traductrice, qu'on n'y fait pas attention et que c'est plutôt une marque de confiance qu'on vous fait ?
C'est une longue histoire. Moi-même, je ne me rappelle pas toujours le nom des traducteurs. Je ne vais pas forcément le consulter. Je pense que maintenant, le nom des traducteurs apparaît de plus en plus souvent sur la couverture, en même temps que le nom de l'auteur. Ça peut faire une différence. Il est vrai aussi que pour des grands classiques, comme justement 1984 ou Le meilleur des mondes, on va regarder le nom du traducteur parce qu'on sait qu'il y en a eu plusieurs. Mais spontanément, quand on découvre un roman, quand on découvre une œuvre, on ne regarde pas toujours le nom du traducteur. Ça tient à une longue tradition d'invisibilité du traducteur. Vous avez raison, cette traduction repose aussi sur la confiance. Maintenant, ce que nous voulons dire, nous les traducteurs, c'est que la traduction est subjective, non pas capricieuse, elle n'obéit pas aux caprices, elle relève d'une subjectivité informée, si bien que d'un traducteur à l'autre, la traduction va varier, sans qu'on puisse dire que celle-ci soit fautive ou celle-là. Simplement, chaque traducteur est un filtre personnel. Je suis d'accord pour qu'on nous fasse confiance, mais je suis d'accord pour qu'on nous fasse confiance à tous, pour que le fardeau de cette confiance soit réparti en quelque sorte.
Est-ce que vous pensez que maintenant, après tous les noms que j'ai cités, que vous avez traduits, maintenant que vous faites aussi paraître ce dictionnaire amoureux de la traduction, quand on a une traduction dans les mains de José Camoun, c'est quelque chose ?
C'est de toute façon quelque chose quand on a une traduction dans les mains.
Mais on s'attend à quelque chose, c'est-à-dire que maintenant on s'attend aussi à retrouver peut-être que quelque chose, votre filtre à vous en fait, que d'une certaine manière vous êtes devenu un filtre qu'on reconnaît et qu'on cherche à retrouver. Est-ce qu'on a un style quand on est traducteur ? On a quelque chose de l'auteur ?
Alors, c'est assez complexe parce que le traducteur lui-même n'en est pas forcément conscient. Mais lorsque vous traduisez un auteur, vous vous imprégnez bien entendu de sa phrase, vous l'entendez dans votre tête, parfois d'ailleurs vous la lisez à haute voix, et alors il peut vous arriver de constater que l'auteur se trahit, si j'ose dire, se manifeste à son insu, par une préférence pour telle ou telle catégorie grammaticale, pour la fréquence des verbes, pour un rythme binaire, ternaire, quaternaire, et il ne le sait pas forcément. Et donc, vous-même, vous êtes aussi un scripteur, vous êtes aussi un auteur. Ça veut dire que tout ce qu'il y a dans le style de, j'allais dire, de charnel, qui vient du corps, des rythmes profonds, bien entendu, ça s'applique à vous aussi. Dans ce sens-là, il y a un style de traducteur, celui qui vous échappe, ce qui n'empêche pas que vous essayez, bien entendu, de vous couler dans le style de l'auteur. J'ai dit dans ce dictionnaire, hein, si le chaman peut se glisser dans la peau du crocodile, peut-être que mutatis mutandis, je peux me glisser dans la voix de Philip Roth.
Mais il reste quand même quelque chose de vous, José Camoun, dans vos traductions. C'est-à-dire que tout est à la fois de vous, mais tout et aussi de l'auteur. À quel moment je peux me dire j'ai une traduction de José Camoun entre les mains, vous voyez ? Est-ce que sans avoir votre nom sur la couverture ou inscrit sur les pages, je pourrais me dire ça ?
Encore une fois, je pense que c'est... Je me trahis moi-même par une certaine préférence pour des catégories grammaticales. Même éventuellement par des tics de langage, mais j'espère que mes relecteurs leur tordent le cou aussi, parce que je ne souhaite pas me manifester comme ça. Maintenant, je me manifeste d'une façon que vous ne pouvez en aucun cas deviner.
Alors dites-nous.
mais je l'ai dit dans le début, hein, dans mes prolégomènes, à mon avant-propos, c'est-à-dire que pour un mot donné, je ne sais pas moi, le mot confiance ou la couleur bleue, vous prenez 12 individus dans la rue et 12 individus auront des associations différentes. Et la traduction, c'est une question d'association. Mes associations sont mon filtre. Mmh. Elles m'appartiennent en propre. Et par conséquent, sans que vous le sachiez, et sans que je le sache moi-même, bien entendu, vous lisez du José Camoun.
D'ailleurs, c'est ce que vous dites effectivement dans votre avant-propos, puisque vous parlez de la différence entre la dénotation et la connotation. Donc la dénotation, c'est le fait, par exemple, de dire le mot chaise, qu'on va traduire par le mot chaise tel quel, et on aura l'image d'une chaise. Mais cette image-là va devenir une connotation, parce que moi, par exemple, si je pense à une chaise, José Camoun, je pense à une chaise en bois et en osier, avec une assise en osier. Vous pensez à quoi comme type de chaise ?
Ah, si je dis le mot chaise, je vais imaginer ces chaises à dossier assez rigide qu'on avait dans les années 50 en faux acajou, vous voyez.
Donc c'est à ce moment-là que la dénotation devient connotation et que le filtre du traducteur commence à se faire.
Exactement. Et encore, chaise est un mot concret, si vous voulez, qui n'autorise pas non plus des associations infinies. Alors que si vous parlez du haut, du bas, du grand, du petit, du juste et du faux, imaginez.
Vous avez tout de suite dit ce mot, José Camoun, qui est celui de charnel. Effectivement, c'est un dictionnaire amoureux. On connaît cette collection chez Plon des dictionnaires amoureux, mais vous y attachez particulièrement de l'importance parce que pour vous, c'est d'abord un rapport, vous dites, de désir et de libido qu'on entretient avec un texte et donc avec l'acte de traduire. Donc, c'est pas un travail, selon vous, qui est scientifique ou qui est uniquement technique. C'est d'abord quelque chose de l'ordre de l'amour.
En tout cas, quelque chose de l'ordre du désir. Ça, c'est certain. C'est ce qui nous porte, vers l'œuvre. Et ce qui nous porte vers l'œuvre, je dirais, indéfiniment, y compris l'œuvre qu'on a traduite, et qui, bien entendu, nous a résisté et nous résiste encore, c'est ce désir d'en savoir plus, d'entrer davantage dedans, d'explorer une autre direction dans l'œuvre. Je pense qu'il y a effectivement quelque chose de charnel, parce que cette œuvre, d'une part, manifeste aussi le caractère charnel de son auteur. Hein, s'exprime encore une fois dans ses rythmes, dans la démarche de la phrase, ses volte-face, ses ralentissements, ses staccato. Donc tout ça, nous l'éprouvons, tout ça, nous le filtrons. Hein. Je dirais que je suis une huître minuscule qui filtre l'océan littéraire. Et nous filtrons tout ça consciemment et à notre insu. Donc c'est un travail éminemment technique. Parce que lorsque vous prenez un texte, vous allez l'arpenter, vous allez le défricher, si vous voulez. Hein. Vous allez repérer les réseaux sémantiques, hein, les réseaux de sens, justement les rythmes, comment il est composé sur le plan de la syntaxe. Mais tout en faisant cela, bien sûr, vous vous imprégnez de ce texte, sans même le vouloir, sans opération particulière. Donc c'est perpétuellement une double opération qui est à la fois technique, émotionnelle et quasiment sensuelle.
Quand vous récupérez un manuscrit, vous dites que vous le serrez fort contre vous, quand vous le récupérez encore, d'ailleurs, de manière physique, oui. Parce que vous dites maintenant on les récupère souvent déjà sur l'ordinateur, ce qui perd un petit peu de son charme et on voit moins l'ambiance désir et amoureuse dans le mail qu'on reçoit avec une pièce jointe. En tout cas, vous dites que quand vous avez un manuscrit, José Camoun, vous le serrez fort contre vous et vous osez presque à peine l'ouvrir au début, comme si vous vouliez vous le réserver. Est-ce qu'au moment où vous ouvrez ce manuscrit-là, vous le lisez en entier ou tout de suite vous dites, on va commencer chapitre par chapitre et on va commencer tout de suite cette œuvre de traduction ?
Alors ça dépend, mais en principe je le lis en entier. Maintenant, si c'est un auteur que j'ai l'habitude de traduire, c'était le cas avec Jonathan Coe quand je le traduisais, je savais que j'aimerais entrer dans cette œuvre. Je savais que j'y entrerais avec une grande familiarité. Et donc, je me disais, oh, mais je vais me laisser surprendre. Je veux garder le suspense. Je veux garder l'inconnu. Je ne veux pas en savoir plus que le lecteur, après tout.
Donc, vous attendiez dans ces moments-là. C'est là aussi où se faisait la relation amoureuse ou libidinale, c'est-à-dire pas seulement avec un texte, avec l'art de débusquer ces tournures grammaticales, mais aussi avec un auteur en particulier. C'est une relation que vous nouez sur le temps long avec des auteurs.
Bien entendu. En principe, les éditeurs, si tout va bien, préfèrent confier les œuvres d'un auteur au même traducteur. un petit peu de la même façon que quand on double les films, les producteurs aiment bien que ce soit doublé par le même acteur, que tel personnage, tel acteur hollywoodien soit doublé par tel acteur français. Parce que ça crée un lien de familiarité avec le public. Donc, il faut aussi bien sûr comprendre que le traducteur, quand il aborde une œuvre, bien souvent a lu les autres. Soit qu'il les ait traduites, soit qu'il les lise pour en savoir plus, pour étoffer finalement la sphère de la traduction.
Mais ça, c'est nécessaire, vous pensez ? De lire tout un auteur, tous ses autres livres, pour vraiment bien traduire un livre ?
Alors, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais je pense que c'est d'une part extrêmement agréable et instructif. Et si vous voulez, ça approfondit votre perception de l'œuvre. Parce qu'il y a des mots qui vont faire sens en réseau, bien entendu, des situations qui vont faire sens.
Vem är du?
Jag är döden.
Kommer du för att hämta mig?
Jag har redan länge gått vid din sida.
Det vet jag.
Är du beredd?
Min kropp är rädd. Inte jag själv. Vänta ett ögonblick.
Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppskov.
Du spelar ju schack, inte sant? Villkoret är att jag får leva så länge jag står emot. Spelar jag det matt, friar du mig. Du fick svart.
Det passar ju bäst så, inte sant?
Un extrait du film Le Septième Sceau, Ingmar Bergman, de 1957. José Camoun, est-ce que vous parlez le suédois ?
Pas du tout, et je viens d'entendre cette langue avec un immense plaisir, une immense curiosité. On dirait la langue des elfes. Il y a quelque chose d'absolument magique là-dedans.
Si on vous a diffusé cet extrait, c'est évidemment parce que vous racontez dans votre dictionnaire amoureux de la traduction, vous revenez sur cet amour-là, sur comment vous êtes devenue traductrice. Et ce film-là a joué un rôle, peut-être inconscient, peut-être que c'est un peu une illusion rétrospective de dire que vous allez nous dire quel rôle il a joué selon vous.
Eh bien, je pense que je devais être en première à cette époque-là. Quand je l'ai vu avec ma mère.
Ah, mais je pense, dans ma tête, je me dis que vous l'aviez vu à 6-7 ans.
Alors, pas du tout. Non, je l'ai vu...
Il me fait une mauvaise idée.
On va dire jeune adulte, avec ma mère qui était professeure de philosophie. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une mère professeure de philosophie et c'est fort utile. Et donc, nous étions allés voir ce film et le chevalier qui est le héros du film, joué par Max von Sydow, si mes souvenirs sont bons... dispute une partie d'échecs avec la mort. Mais on ne sait pas que c'est la mort, c'est un moine avec une capuche noire, bien sûr. Et c'est un individu très mystérieux. Et le chevalier lui révèle son truc aux échecs. Il révèle sa ruse. On comprend bien quelle est l'issue. Et donc, je sors du film et je dis à ma mère, mais c'est bizarre. C'est un homme alors qui personnifie la mort. Et ma mère me fait remarquer que en allemand, et peut-être dans les langues nordiques, scandinaves, la mort est du masculin. Et au fond, à bien y réfléchir, en latin aussi. Et tout d'un coup, je me dis, mais finalement, la langue définit nos représentations. Elle induit nos représentations. Elle induit un imaginaire. Elle induit des figures. La mort féminine, le mort masculin, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et je crois que ce qui me vient à l'esprit à ce moment-là, et vous avez raison, c'est peut-être une illusion rétrospective, évidemment, c'est une curiosité anthropologique qui n'a jamais cessé, au point que je suis allée faire de l'anthropologie entre l'agrégation et la thèse de littérature.
Anglaise.
Et que ce pas de côté anthropologique, finalement, je crois, a parachevé ce désir de traduire et l'a étoffé. L'a enraciné. Voilà.
Si Bergman avait été français, ça veut dire que la mort aurait été une femme.
Je ne sais pas, mais j'imagine. La langue n'est pas un carcan.
Ouais.
Elle n'emprisonne pas l'imaginaire. Elle le suscite, elle ne l'emprisonne pas.
Vous dites aussi dans votre dictionnaire que vous avez fait du latin et du grec, que c'est là où vous avez commencé à traduire pour la première fois. C'est mon cas aussi, j'ai fait du latin et du grec. J'ai aussi vu le Septième Sceau, mais je ne suis pas devenue traductrice. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous alors ?
Ah mais la vie est une succession de petites bifurcations comme
mais
ça.
Mais surtout on dirait que vous êtes tombée dans la traduction, que vous êtes devenue traductrice par hasard. Tous les indices étaient là, Bergman, vos questionnements, le latin, le grec, les versions, les thèmes, mais tout à coup, ça s'est enclenché par hasard. C'est un ami, vous racontez, qui vous a confié une traduction parce qu'il n'avait pas le temps de la faire. Ça m'a fait penser à ces anecdotes de comédiens célèbres qui disent « j'accompagnais un pote à un casting et c'est moi qui ai été pris ». C'est un peu votre cas, en fait, José Camoun, avec la traduction.
Alors, oui, à ceci près que j'attendais que ça. Si vous voulez.
Ah donc, vous étiez déjà en demande de traduction.
Mais absolument, mais je doutais fort, et je pense que j'avais raison, que si j'envoyais mon CV, à peu près vierge, sur le plan de la traduction, à des éditeurs en disant « c'est moi José Camoun, j'aimerais beaucoup traduire, et j'aimerais beaucoup traduire pour vous », je doutais fort du succès de l'entreprise.
Alors pourquoi on vous a proposé ça à ce moment-là, et surtout en fait, plutôt pourquoi vous aviez déjà cette envie-là ? D'où elle vous est venue ?
Bien, quand j'étais en terminale et que je faisais des versions latines, mon professeur de latin disait qu'elle lisait mes versions dans d'autres classes en demandant aux élèves « original ou traduction ?». Donc, elle me prédisait une carrière de traductrice, c'est assez drôle. Je ne pensais pas en vivre à l'époque, j'avais de toutes autres idées. Je voulais être journaliste, grand reporter, piloter une grosse moto le long des rizières vietnamiennes. Enfin, ça n'avait aucun rapport, bien entendu, avec la réalité.
Et d'ailleurs, vous pouvez être traductrice et faire ça.
Oui, c'est vrai. On peut être traducteur et beaucoup de choses à côté.
Et donc, cette envie était déjà là, vous le pressentiez, mais bon, on pourrait se dire aussi que vous aviez envie d'être, voilà, comme vous le disiez, écrivaine, journaliste, autre chose. Alors pourquoi la traduction, tout à coup, s'est imposée non pas seulement comme une vocation, mais aussi comme un goût, vous parlez aux amateurs dans ce dictionnaire, mais aussi comme un métier?
Elle ne s'est pas imposée tout de suite comme un métier. Quand on m'a proposé cette première traduction pour les éditions du Seuil, j'ai évidemment accepté tout de suite. J'ai sauté sur l'occasion, comme on pourrait dire. Mais j'enseignais et je ne pensais pas du tout que j'en ferais un jour métier, j'allais dire à temps complet ou à temps quasi complet. Et d'ailleurs, une grande partie de ma vie, j'ai enseigné, puis j'ai été inspecteur général des langues et j'ai traduit. C'est un métier, certes, enfin, en tout cas c'est une activité, je dirais, pour moi. Voilà, mais c'est bien sûr, c'est un métier, mais je n'avais pas vraiment pensé en vivre. Et d'ailleurs, c'est un métier dont peu de gens vivent.
Vous avez eu peur pour votre première traduction ? Vous saviez tout de suite comment faire ?
J'avais pas traduit grand-chose. Et oui, j'avais peur, je vous réponds tranquillement oui, parce que j'avais traduit des versions, c'est quand même assez différent. Et au fond, je ne savais pas du tout ce que je donnerais sur la longueur. Hein. C'est quand même un marathon, une traduction. Bien sûr que j'avais peur. Oui, oui, tout à fait. Mais vous savez, au bout de 40 ans de métier, j'ai toujours peur. Hein.
Qu'est-ce qui vous fait peur de rater ?
Oui.
De vous tromper dans l'intention de l'auteur, dans ce qu'il a voulu dire, dans le fait que ça plaise, le fait que ce soit compris ?
Tout ça. Absolument tout ça, bien sûr. J'ai peur de trahir l'auteur, c'est la première chose. Hein. Comme tout traducteur, nous avons peur de ne pas rendre ce que nous avons cru comprendre. Nous avons peur de mal le rendre et nous avons peur qu'il soit mal entendu. Nous n'avons plus, si vous voulez, moi je fais à peu près 6 ou 7 versions quand je traduis un texte. Hein. Donc évidemment, à la dernière version, je finis par ne plus y voir très clair. Heureusement, nous avons des éditeurs lecteurs.
Hein. Oui, mais vous vivez tout le temps avec un auteur et ses mots, ça doit être aliénant.
Ah, c'est un assez bon mot. C'est un assez bon mot, aliénant. Je le prends, je le garde.
Oui, mais c'est pas un état très agréable.
Si.
Ah, c'est alors plus, dites-nous pourquoi.
C'est plus ambigu que ça. C'est tout un rapport à la possession. Qui possède et qui est possédé par le texte, si vous voulez. Hein. Le texte m'habite, j'habite le texte. J'y trouve mon compte. J'y trouve mon compte et c'est moins périlleux que vous ne le pensez, parce que demain, il y en aura un autre.
Un autre texte ou une autre version de ce même texte dont vous parlez ?
Alors, demain, il y aura une autre version de ce même texte, bien entendu. Et puis, bien sûr, demain, je passerai à un autre texte.
Quand vous parlez de version, José Camoun, vous parlez de version où vous adoptez des principes radicalement différents d'une traduction, d'une version à l'autre, ou est-ce que c'est seulement quelques modifications que vous faites de ci, de là ?
Ça dépend si c'est la deuxième version ou si c'est la 6e ou 7e, il est évident.
Qu'est-ce qui évolue alors justement entre la première, la 4e et la 7e ?
Alors la première, c'est ce que j'appelle le labourage. Vous attaquez le texte à bras-le-corps et puis vous le traduisez au fil, non pas de la plume, mais du clavier. Vous y allez, Vous y allez, c'est pas
bien. Dans la subtilité, voilà. C'est pour comprendre le sens, pour savoir, pour se familiariser avec les tournures.
Pour le poser, pour le mettre en place, vous voyez, pour le mettre en place. La deuxième, là, il va quand même falloir entrer dans le vif du sujet, entrer dans le dur. Donc c'est probablement là que vous allez adopter un certain nombre de principes qui vont guider, qui guident votre projet, si vous voulez. Et puis après, ben, ça va devenir des retouches, des retouches, des coups de lime ici et là. Maintenant, il peut arriver que ces coups de lime produisent un tel effet que vous reveniez en fait sur votre deuxième version. Hein. On n'est jamais sûr. Ce qui fait le charme de ce métier, c'est qu'au bout de 40 ans de travail, il reste plein de surprises.
Vous êtes arrivé à combien de versions au maximum? Par exemple, je ne sais pas, moi, pour un livre de Philippe Roth.
Oh, ce ne sont pas les plus difficiles à traduire.
C'est quoi les plus difficiles?
Je pense, si vous voulez, que je parle probablement dans une des entrées du livre Fish Boy, que j'ai traduit par le dit du jeune fantôme. C'est de la prose poétique extrêmement difficile, hermétique, étrange, très rythmée, très oratoire, si vous voulez. Donc, l'ouverture de ce livre, l'ouverture de ce roman, c'est-à-dire quelques pages, je crois que je l'ai refaite 31 ou 32 fois.
Et qu'est-ce qui vous convenait pas? Qu'est-ce que vous sentiez pas?
Je n'entendais pas comme il fallait.
Et alors, comment a eu lieu le déclic?
Un jour, ça arrive, et quand vous entendez ce qu'il faut, c'est là.
Et ça tient à quoi, par exemple? À une phrase que vous entendez autour de vous? À un rêve? Au fait de répéter? Au fait de vous doucher en y pensant?
Absolument, tout ça. Absolument tout ça. C'est pourquoi je dis que si vous êtes de complexion obsessionnelle, faites-vous traducteur. Ça ne guérira en aucun cas votre symptôme, ça va l'aggraver.
Mais ça va le canaliser d'une certaine
manière. Ça va le canaliser et le rentabiliser d'une manière magnifique. Nous sommes des obsessionnels.
It was the 3rd of June, another sleepy, dusty Delta day. I was out chopping cotton and my brother was baling hay. And at dinner time we stopped and walked back to the house to eat. And Mama hollered at the back door, y'all remember to wipe your feet. And then she said, I got some news this morning from Choctaw Ridge. Today Billy Joe McAllister jumped off the Tallahatchie Bridge.
C'était le 4 juin, le soleil tapait depuis le matin. Je m'occupais de la vigne et mon frère chargeait le foin. Et l'heure du déjeuner venue, on est retourné à la maison. Et notre mère a crié de la cuisine, essuyez vos pieds sur le paillasson. Puis elle nous dit qu'elle avait des nouvelles de Bourg-les-Essonne. Ce matin, Marie-Jeanne Guillaume s'est jetée du pont de la Garonne.
Nous sommes en 1967, Marie-Jeanne de Joe Dassin pour la version française et Ode to Billy Joe pour la version américaine, Bobby Gentry. Donc.
Et ces deux chansons, José Camoun, apparaissent dans votre dictionnaire amoureux de la traduction à la lettre C. C comme campagne et Grand Ouest. Vous abordez la question, ça vous fait rire ce titre?
Country and Western.
Pour aborder du coup la question de la traduction qui est partout, qui est omniprésente, on vit en fait avec des objets traduits, de la musique, des films sous-titrés, des livres, mais aussi en fait, d'une certaine manière, on pourrait se dire que la traduction est partout, même par exemple là quand on se parle, José Camoun, cette question aussi de toujours s'adapter à l'autre, toujours s'adapter à l'interlocuteur. Ce qu'on entend aussi d'une certaine manière dans cette chanson, on a l'impression de retrouver la même, mais c'est complètement différent.
Absolument. J'ai été toujours fascinée par cet exemple-là, mais il y en a beaucoup d'autres. En fait, ce que j'ai voulu faire dans ce dictionnaire amoureux, c'est mettre des fils en tension pour voir si ça allait produire de l'électricité. Et il est clair que ça en produit, parce que, comme vous le dites, la traduction nous entoure, j'allais dire qu'elle nous baigne, qu'elle nous nimbe. Mmh. Il y a aussi, bien entendu, ce que vous laissez entendre, c'est-à-dire la traduction intralinguistique à l'intérieur de notre propre langue. Quand nous entendons un énoncé du type « le ministre s'est voulu rassurant ». Ah, c'est voulu rassurant. On a tous compris qu'il n'est pas très rassurant. Il n'a pas réussi. Quand nous entendons un énoncé du type « j'ai confiance en la justice de mon pays », on se dit « oh, ça va pas fort pour lui ». Et donc nous décryptons à l'intérieur de notre propre langue, la rhétorique, les manières de dire. Nous ne parlons pas la même langue avec nos enfants que nous conduisons à l'école à 8h du matin, avec le chef des travaux qui intervient dans notre maison, etc. Donc en effet, la traduction est partout. Elle est aussi dans la publicité, elle est aussi dans les titres de films qu'on traduit ou qu'on ne traduit pas. Elle est le témoin permanent de la porosité des cultures et des langues. Et donc, en réalité, nous sommes tous des traducteurs. J'ai une entrée qui s'appelle « Tous traducteurs ».
Oui.
C'est la dernière phrase de « Sur la route ».
Qui est très longue.
Qui est assez longue,
oui. C'est un bon paragraphe.
Trois quarts de page. Oui. Donc vous avez l'original et vous avez 13 traductions qui sont les traductions des séminaristes d'un séminaire que j'avais animé, et la mienne, dans la foulée. Et il reste une page blanche. Elle est pour le lecteur. Elle est pour le lecteur qui mettra la sienne, qu'il prenne un crayon, éventuellement une gomme, et qu'il revienne là-dessus. Donc nous traduisons tous, en fait, tout le temps. Et c'est quelque chose qui, je dirais, à la fois nourrit la langue, nourrit la pensée, et nous interroge, évidemment, au-delà de tout ça, sur nos conventions et nos représentations. Je crois que c'est un mot important, le mot de représentation. Donc là, j'ai mis en tension ces deux versions de l'ode à Billy Joe, qui vient du genre, on va dire, aux États-Unis country and western, et qui a été reprise par Joe Dassin. Et je dis, quand je les mets en tension, c'est une chanson qui est pleine d'une tension contenue. Et cette tension contenue de l'original, Dassin l'a faite parfaitement, l'a fait passer parfaitement. Et aussi, il avait un parolier que je trouve vraiment génial, car la traduction ne pourrait pas être plus fidèle, même s'il y a une parfaite adaptation au contexte français, où on pourrait, quelqu'un qui n'aurait jamais entendu Ode to Billy Joe ne soupçonnerait pas qu'il y a cette Ode to Billy Joe.
Il s'appelle Jean-Michel Riva.
Son nom.
Absolument. Le traducteur. Voilà.
Absolument. Disons le nom du traducteur, assez génial à mon avis. Et alors, il a traduit ça, il a passé cette chanson au public français, mais le genre country and western, il ne l'a pas passé. Il en faudrait plus. Il faudrait vraiment avoir un état de réceptivité dans la culture d'arrivée pour que ça devienne un genre. Donc c'est juste une exception. Voilà.
Vous dites, José Camoun, notamment donc, dans cet article « Tous traducteurs », on voit bien que la traduction de la dernière phrase de « Sur la route » de Kerouac n'est jamais la même. Ce qui veut dire qu'on n'arrive jamais à une traduction similaire. Donc jamais à une traduction, on pourrait dire parfaite. Est-ce que ça veut dire que la traduction parfaite n'existe pas, mais surtout qu'en fait, il faut renoncer parfois à de la compréhension absolue de ce qu'un auteur étranger a dit, de ce qu'une personne étrangère a dit, et même de ce que l'autre à côté de moi a dit?
Mais absolument, il n'y a pas de vérité ultime du texte.
L'auteur... Et la compréhension ultime?
Mais s'il n'y a pas de vérité ultime du texte, si l'auteur lui-même ne la possède pas, dans la mesure où le texte de l'œuvre qu'il a écrite est une transaction entre son inconscient, son projet, etc. J'avais entendu sur un plateau de radio il n'y a pas longtemps, il y a autant de guerre et paix qu'il y a de lecteurs de guerre et paix. Et je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est une formule lapidaire, j'irai pas plus loin. Donc s'il en est ainsi, comment voulez-vous qu'il y ait une traduction définitive ? Est-ce que toutes les traductions se valent ? C'est un débat. Mais ce qui ne fait pas débat, c'est qu'il les faut toutes. Aucune ne fait double emploi.
Donc il faut toujours réactualiser une traduction et renoncer en fait à l'idée même d'une compréhension absolue, voire même, vous insistez beaucoup sur ce mot, d'étrangéité, José Camoun. Presque même rendre ce côté étrange, insister sur ce qu'on ne comprend pas.
Ça, c'est encore un autre débat. Mais il me semble que profondément, si on est d'accord pour dire que l'œuvre est le résultat du producteur, l'émetteur, celui qui l'a écrite, et ensuite du récepteur, il n'y a pas de fin à la réception, si vous voulez. La réception étant sans fin, les années passeront et il y aura toujours de nouvelles lectures. Il y en aura en Afrique, il y en aura en Asie, il y en aura chez nous. Donc, si vous voulez, l'œuvre s'enrichit de toutes ces traductions. Elle s'enrichit de toutes les lectures. Donc, on n'en aura jamais fini, car l'œuvre est là. La traduction n'est jamais qu'un état secondaire du texte.
Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est frustrant ? Parce que moi, parfois, quand je lis un livre, quand je lis Guerre et Paix, par exemple, je dis « j'ai lu Guerre et Paix ». Je suis contente de dire que j'ai lu Guerre et Paix en entier. Mais s'il y a autant de Guerre et Paix que de lecture de Guerre et Paix, autant de Guerre et Paix que de traducteurs et de traductions de Guerre et Paix, et peut-être autant de Tolstoï, j'ai l'impression que je possède rien, en fait, que j'ai perçu qu'une nuance infime d'un texte qui se démultiplie au fur et à mesure de ses lectures.
Pour moi, ce vertige est euphorique.
Ça vous frustre pas, vous ?
Absolument pas. Ça m'enivre.
Et alors, sur cette question de l'étrangéité, quelle différence vous faites, justement, entre cette incompréhension qui doit résister et qui vous rend euphorique et moi me frustre ? En quoi c'est différent ?
Non, ce que je veux dire, c'est que le fait que l'œuvre ne cesse de s'épaissir, ne cesse de se répandre, si vous voulez, c'est vrai dans votre propre langue. C'est vrai dans les œuvres que vous lisez dans votre propre langue. Maintenant, il y a un grand débat chez les traducteurs, et il va rester débat, je pense, assez longtemps. Hein. Devons-nous, outre l'étrangeté de l'œuvre, véhiculer l'étrangéité de la langue ? Mais c'est un peu un double bind, si vous voulez, c'est une injonction contradictoire. Parce que si je traduis l'étrangéité de la langue, je ne vais pas traduire l'effet que l'œuvre produit sur son public original, puisque pour le public original, elle n'est pas étrange. Donc je vais introduire autre chose. Je vais introduire quelque chose de la langue source dans la langue cible. Quelquefois, c'est tentant, le plus souvent, c'est impossible. Par exemple, si vous voulez, en français, on dit « pleut des cordes ». En anglais, on dit « pouring cats and dogs ». Si j'introduis qu'il pleut des chiens et des chats, je ne suis pas sûre que je vais faire un grand bond en avant à la langue française. Par ailleurs, ma position d'angliciste est assez particulière, parce que la langue anglaise est très hégémonique, notamment sur la langue française. Je dirais bien que pour que la langue française soit fécondée par la langue anglaise, on n'a pas besoin de la traduction. Ça se passe tous les jours que Dieu fait, nous devenons extrêmement poreux à la langue anglaise. Mais c'est un grand débat.
Qu'est-ce que faisait votre père ?
Imprimeur.
Il imprimait quoi ?
Des cartes puis des papiers de semaine, de politique. Mm-hmm. Des petits journaux de politique. Une belle grosse shop. Mm-hmm. Il a perdu dans la flood.
L'inondation.
Hein? Inondation. Pour la rivière. Mm-hmm.
Est-ce que votre père était né ?
Léo Alcide Kerouac.
Vous êtes allé à l'école française ?
Oui, Saint-Louis-de-France. Je ne parlais pas l'anglais avant j'avais 6 ans.
Vous n'avez pas appris l'anglais avant l'âge de 6 ans?
Oui.
Ça veut dire que dans votre famille, on ne parlait pas anglais?
On parlait français dans la cabane, dans la maison.
La voix de Jacques Kerouac dans l'émission Le sel de la semaine en 1967 sur la télévision Radio-Canada.
Et vous parlez, José Camoun, de Jacques Kerouac que vous avez traduit. Hein. Vous avez traduit Sur la route, c'était en 2010. Vous avez rédigé la préface de Sur le chemin, qui est une sorte de préquel de Sur la route. Là, on est face à quelque chose que moi, j'ai complètement découvert grâce à vous. C'est qu'en fait, Jacques Kerouac parlait français.
Mais je ne l'ai pas toujours su moi-même. Quand j'ai traduit Sur la route, Gallimard venait de découvrir le fameux rouleau sur lequel Kerouac avait tapé frénétiquement, on va dire, la énième version de Sur la route. On l'a appelé le rouleau original, mais ce n'est nullement la première version de Sur la route. Difficile de dire
laquelle est la première.
Oui. Absolument. Et donc, en allant sur Internet faire des recherches, je tombe sur un paragraphe. Un paragraphe. Bon, j'étais sûre que je commence à découvrir que peut-être il avait parlé français. Ou alors, Joual. J'avais vu des films de Gilles Carle, hein, je savais ce que c'était que le Joual. Mais je ne l'attribuais pas à Kerouac. Enfin bref.
Donc le Joual, c'est un patois québécois.
C'est un dialecte, on ne dira pas un créole. C'est un parler québécois, en effet. Évidemment, c'est une langue non écrite. Ça, c'est un point crucial. Hein. C'est une langue non écrite, une langue orale. 60% des langues du monde sont restées orales, il faut le savoir. Et donc, je me dis, de toute façon, ça doit s'appeler Sur la route. Et à ma grande surprise, ça s'appelle « Sur le chemin ». Et je n'en ai que 5 lignes. Dans le mois d'octobre de nos vies bardasseuses, y arriva une machine avec un Soulon. Et je lis ça, et c'est absolument extraordinaire. Je me dis, mais comment puis-je trouver ce texte? Je le traque absolument partout, je le trouve pas. Et un beau jour, je découvre...
Gallimard n'était pas au courant, les éditions américaines non plus.
Mais non. Et un beau jour, je découvre que les éditions boréales l'ont publié et en ont publié d'autres. La vie est dommage, c'est le titre qui a été donné. Et donc, je suis absolument stupéfaite de la splendeur et de l'étrangeté de cette langue complètement hybride qui mélange l'anglais et le français avec des structures qui sont vraiment les structures de la langue anglaise plutôt, et des vieux mots français et des mots que nous ne connaissons plus, bardasseux par exemple, hein, qui veut dire turbulent, qui vous bardasse, qui vous chahute.
Et comment vous avez réussi à traduire ce mot qu'on n'utilise plus et d'une langue orale qui avait été retranscrite?
Ah mais moi je ne l'ai pas traduit, moi j'ai écrit la préface à ce texte. Ce texte est intraduisible parce que si vous traduisez ce qui est français dans ce texte, alors vous le mettez à plat. Si vous traduisez ce qui est anglais, vous le mettez à plat aussi. La rugosité, la beauté absolument baroque de ce texte, même baroque étrange, baroque au sens de non poli, si vous voulez, hein, tient justement à cette hybridation et aussi aux mots que Kerouac a traduit peut-être littéralement de l'anglais. Je pense par exemple à « darkness », et chez Kerouac on trouve la sombresse dans la sombresse. Alors nous le comprenons, hein, la sombresse. Et en même temps, ça a une résonance poétique absolument sauvage et neuve.
Donc il faut, on en revient à ce qu'on disait, Joseph Camoun, il faut renoncer à tout comprendre, préserver là justement l'incompréhension telle qu'elle, en fait, se dire, voilà, c'est une autre langue, on ne comprendra pas tout, mais en fait, on va se laisser porter par cette langue, sans tout comprendre.
Absolument. Et je crois d'ailleurs que si j'en reviens au début de mes amours avec l'anglais, c'était la grande déferlante de la pop et du rock. Et à cette époque-là, on n'avait que des pick-up pour écouter des disques. Vous voyez, j'ai l'impression de raconter des choses qui remontent aux grottes de Lascaux. Et donc, on avait ça et on les écoutait en boucle. On écoutait jusqu'à comprendre la chanson. Simplement, il y avait la musique, il y avait le fait que cet anglais-là n'était pas l'anglais scolaire. Donc, il y avait des tas de choses qu'on ne comprenait pas. Et quand j'écoutais ce mystérieux slow qui s'appelait de Procolarum, hein, j'écoutais ça et je me disais « A white shade of pale ». Je ne connaissais même pas cette structure en anglais, hein, la résultative. Chaque fois que je l'écoutais, je comprenais une histoire différente. Je crois qu'il est délicieux d'avoir aussi une écoute flottante, si vous voulez. On comprend, on ne comprend pas, on imagine, on est entre les deux.
Merci beaucoup José Camoun. De vous, on peut lire le dictionnaire amoureux de la traduction et c'est paru aux éditions Plon.
Pour finir, vous avez le choix entre deux chansons dans un anglais pas très scolaire et un peu approximatif, une chanson de Renaud ou une chanson d'Adriano Celentano. Laquelle choisissez-vous?
On va essayer de Celentano pour voir.
Freezing cold in Ainsley 9 Tuesday.
You're the cold maze, say one. Freezing cold in Ainsley 9 Tuesday. All right.
When I stay in the shoes and I will hold Billy Sane, then I hold red, maybe get the color boss dying. Happy kid, cold baby, just stay yet, Miss Joe. When I stay in the shoes, and I will hold Billy Sane, then I hold red, maybe get the color boss dying. When it's the same, I feel the coffee steam.
Voilà une chanson chantée en yaourt, on pourrait dire. C'est d'Adriano Celentano. Le titre de la chanson est beaucoup trop long. Je laisse le soin à l'équipe de l'afficher sur le site à la page des Midi de Culture pour avoir la référence. Encore merci à vous, José Camoun. Et un grand merci à l'équipe des Midi de Culture qui sont préparées par Aïssa Touendoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delasselle. Réalisation Nicolas Berger, prise de son Florent Bujon. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France. Merci Nicolas, à demain.
À demain.